les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1989, la Révolution française était deux fois centenaire et l'Université Paris 8 avait 20 ans. Pour saluer cet anniversaire, Espace Éducation avait invité Claude Friou, qui en avait été le président durant 11 années. Au micro de Michel Chouchan, Claude Friou rappelait de quel embarras du pouvoir politique était né au lendemain de mai 68, dans l'urgence et l'improvisation, au cœur du bois de Vincennes, cette université qui ne ressemblait à aucune autre. Une université dont les noms de ceux qui y enseignèrent suffisent, aujourd'hui encore, à entretenir le mythe. Foucault, Deleuze, Scherrer, Lyotard, Badiou, Sixous, Châtelet, Serre, Castel et les autres.
Les 20 ans de l'université de Vincennes.
Yves Mourosy, Pierre Domergue, vous nous parlez à présent de l'expérience tentée à Vincennes avec la création d'une faculté pluridisciplinaire.
Oui, le décret portant création d'un centre universitaire à Vincennes est paru aujourd'hui au Journal officiel. Ce centre pluridisciplinaire, on en a beaucoup parlé depuis plusieurs mois, depuis 3 mois exactement, Pierre Domergue, puisque c'est dans un temps record qu'en définitive, on a construit cette super faculté à Vincennes.
Oui, effectivement, c'est en 3 mois que la faculté a été construite, ce qui est un record sur le plan de l'organisation, un record sur le plan de la construction, et également un record sur le plan de l'organisation pédagogique. Aujourd'hui, commencent les premières réunions entre étudiants et professeurs. Les professeurs ont déjà prévu un certain nombre de programmes, et les débats commencent aujourd'hui entre les uns et les autres.
Autre chose, Yves Mourosy ?
Oui, autre chose, simplement une petite information que je voudrais vous livrer, Jean-Claude Turgeman. Ce matin, il y a eu une conférence de presse des comités d'action de la Sorbonne et les journalistes ont été convoqués à cette conférence de presse. Je vous donne un peu le style. L'un des responsables de la coordination des comités d'action a donné lecture sans commentaire d'un texte intitulé « Le mouvement, les flics, la drogue et le plastique » et après avoir annoncé qu'il ne serait répondu à aucune question.
Voilà, merci Monsieur Domergue. Nous reviendrons évidemment sur les développements de notre expérience.
Détail sur les comités d'action. Oui. Les comités d'action hier ont organisé une réunion à Vincennes avant l'ouverture officielle et je dois dire que la réunion a été extrêmement pacifique. Il y a une volonté de coopération qui est nouvelle, qui est intéressante. Il y a un refus maintenant de boycotter Vincennes et un désir de participation aux discussions pédagogiques.
C'est justement l'intérêt de l'expérience Vincennes car je crois que tout se passe bien à Vincennes si tout se passe bien, pas bien ailleurs.
Claude Friou, voilà 20 ans que l'université de Vincennes a été officiellement créée. Le contexte de l'époque, on peut le rappeler, c'était le contexte post-68ard, avec toutes les passions, toutes les curiosités, les conflits politiques, voire pédagogiques qui en découlaient. Comment Vincennes est-il né, Claude Friou ?
Je crois une espèce de conjoncture entre une crise spécifiquement universitaire, puisque c'est le mouvement étudiant qui a donné... il n'a pas été le seul, enfin, qui a donné un peu l'impulsion la plus voyante. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'université de l'époque, c'est vrai, ça, tout le monde le sentait un petit peu, moi en particulier, moi aussi comme enseignant.
Vous étiez à l'époque un mandarin, ce que les étudiants, effectivement, contestaient ?
Un mandarin, si on veut, enfin, non, parce que j'étais chargé de cours, enfin, j'étais agrégé, mais enfin, j'étais pas en situation totalement mandarinale, je n'y suis parvenu qu'à travers Vincennes, même comme quoi ça conduit partout, y compris au mandarinat. Mais il y avait une crise que j'ai vue en tant qu'enseignant supérieur, dont je avais bien conscience. Et puis, il y avait l'air du temps, c'est-à-dire un sentiment que la société aussi, que certaines valeurs sociales étaient un peu à bout de souffle et qu'elles nécessitaient une révision, une espèce de mise en cause. Et Vincennes est un peu né à la conjonction de ces deux choses, c'est-à-dire une interrogation, une interpellation, comme on disait à l'époque, d'une société par elle-même, à l'occasion d'une crise universitaire assez aiguë et, elle, assez technique, mais enfin qui n'était pas sans rapport avec le grand fond des problèmes de coincements sociaux, moraux, psychologiques. C'est tout ça qui était noué dans une espèce de malaise. Et Vincennes a surgi sur ce fond.
A surgi, je crois que c'est le terme vraiment propre, aussi bien pour la construction des bâtiments et leur implantation dans le bois de Vincennes que pour la mise en place, d'abord du centre universitaire expérimental, puis de l'université elle-même.
Oui, alors ça a été l'improvisation, puisque les autorités de l'époque ont à un moment sont un petit peu affolées, sauf Edgar Faure, qui a été notre inventeur, là. Lui, avec même gardé un certain sens, un certain sang-froid, un certain sens de l'humour, puisqu'il a eu cette idée qu'il fallait, pour un peu décongestionner tout ça, qu'il y ait des pôles nouveaux, des universités de type nouveau, qui devaient apparaître. Et comme il était très pressé, qu'il n'avait pas le temps de beaucoup y réfléchir, il a lancé des projets dont certains étaient mort-nés et dont d'autres étaient plus qu'approximatifs dans la correction de leur profil, puisque Vincennes a été implanté illégalement au milieu du bois de Vincennes, ce qu'on a payé plus tard. Alors, sur le moment, ça ne s'est pas trop vu, mais on s'est aperçu que toutes les règles divines et humaines avaient été foulées gaillardement aux pieds pour nous installer en quelques semaines dans une région qui n'était pas du tout faite pour ça, qui était réservée à la promenade et qui est revenue à la promenade sur notre corps, si vous dire, quelques années plus tard. Donc ça montre à la fois la précipitation et puis l'espèce de pari que c'était, parce que c'est vrai que j'en ai plusieurs fois parlé avec le président Edgar Faure. Après, il a fait ça comme on fait une sorte de dérivation dans un canal bouché, sans savoir très bien si ça deviendrait une petite université proprette à l'américaine ou alors un espèce de chaos permanent où les extrémistes s'extermineraient jusqu'à la fin des temps. Il en parlait avec beaucoup de... Et il était d'ailleurs intéressé que ça soit devenu ni l'un ni l'autre, que ça soit devenu quelque chose de au fond pas tellement marginal dans l'espèce de grande réflexion collective qui s'est menée à partir de là.
Bravant, non pas, je dirais-je, tous les dangers, mais toutes les répugnances, je suis allé mettre les pieds à Vincennes. Si les auditeurs veulent avoir un exemple concret de ce qu'est un monde kafkaïen, ils peuvent suivre ma voie, bien sûr. Mais je n'y suis pas allé simplement pour le pittoresque, j'y suis allé aussi pour voir ce qu'on y enseignait.
Si je vous demandais, monsieur, d'exprimer en une formule lapidaire votre opinion sur Vincennes, qu'est-ce que vous diriez ?
Je dirais que dans les faits, Vincennes est une école de formation, et même une école de cadre de la révolution culturelle.
Au milieu du bois, au voisinage d'un établissement militaire, dont les cartouches ne sont pas sans faire des détonations à longueur de journée, c'est une série de bâtiments préfabriqués, isolés de tout. Dans les couloirs, on vend des livres, mais il y a aussi des stands de boissons et de menus nourriture qui font penser à un souk. Au mur, des affiches et encore des affiches. L'une d'elles annonce un concert de musique classique indienne. Une autre illustre l'activité des commissions ouvrières d'Espagne. Une troisième s'en prend à un problème d'intérêt immédiat, le manque de locaux dans l'université. Il y a encore de la place sur les murs pour une protestation contre le récent procès pour avortement. De la place pour une réclame pour Rouge, organe de la Ligue communiste. De la place pour la dénonciation de la répression en Mauritanie. Et par terre, de la place pour les mégots. Les mégots par centaines, mais ailleurs que dans les cendriers. On dirait, ma parole, que si les étudiants de Paris 8 de Vincennes sont solidaires de tous les opprimés, s'ils portent, comme c'est l'habitude sympathique de ceux qui ont 20 ans, le monde sur leurs épaules, ils considèrent l'élémentaire propreté comme un soin indigne de la hauteur de leurs soucis.
Le le plus important, c'est que Vincennes, ça a été une université fondée sur le principe du volontariat. C'est-à-dire que dans la tradition universitaire, on était nommé, après quelquefois de longues intrigues à droite et à gauche, on arrivait dans un corps où il y avait beaucoup de gens antérieurs, d'autres étrangers. Donc là, c'est tout de même une mobilisation d'étudiants et d'enseignants qui tous avaient choisi de faire ce pari ensemble. Voilà. Alors ça a toujours été une teinture qui reste, parce que c'est un corps qui, fondé sur ce principe, il s'est renouvelé, il s'est alimenté. Mais l'espèce de noyau était venu là-dessus. Il y avait justement tout un échantillon des éléments les plus brillants, il faut le dire, parce qu'il y avait tout de même Foucault,
Il y a eu un petit problème avec Foucault.
Mais Foucault, mais je parle de tout début.
Oui, mais il y a eu un petit problème, parce que le ministère ne voulait pas, ou ses pairs ne voulaient pas le coopter pour Vincennes.
Oh, mais oui, alors il y a plein de gens qu'on personne ne voulait. Il y a eu Lapassade, il y a eu Foucault. Moi, j'ai mené une bataille permanente pour laisser accéder à nous un certain nombre de gens qui étaient trop colorés ou trop bruyants, bien sûr. Enfin, je veux dire, naturellement, quelqu'un comme Foucault, ça l'avait intéressé. Je parle de la pulsion des gens qui venaient là. Donc des gens brillants, des gens différents, des gens qui piaffaient un petit peu, quoi. Qui piaffaient ou géographiquement ou moralement dans le système et qui pensaient que là, il y avait une espèce d'ouverture qui s'était faite. Bon, alors c'est ça qui avait été profilé dans un cadre curieusement coquet, qui a été démoli en quelques jours d'ailleurs, mais enfin qui était pimpant. C'était notre collègue Domer qui avait été voir les universités américaines de les plus huppées pour voir comment c'était agréable à vivre, comment c'était coquet, je reprends le mot. Donc au début, c'était un bijou. C'est la première fois que j'y étais au fond du bois de Vincennes. On croyait une sorte de petite réalisation Knoll ou avec des moquettes, avec des tas de choses qui n'ont pas du tout résisté à l'événement. Ça a été aussi une des catastrophes.
Et c'était aussi source de nombreuses rumeurs concernant la dégradation d'une université qui avait été voulue.
Ben, bien sûr, parce que cette dégradation, curieusement, c'est ce côté pimpant à provoquer. Vous savez, quand vous mettez un mur blanc, aussitôt les gens viennent mettre des graffitis dessus. Tout ce côté bon chic, bon genre, a été pris un tout petit peu comme une provocation, enfin, et les étudiants ont mis un plaisir non dissimulé à les sagouiner au cours de ces épisodes. Ça, c'est vrai. Bon, tout ça, ça fait partie des péripéties du début.
Alors, votre rôle, Claude Frioux, en tant que président d'université, vous l'avez été deux fois, y compris depuis le transfert à Saint-Denis, et en fait, vous avez passé 11 ans comme président d'université Paris 8. Oui. Votre rôle et votre appréciation.
Si vous voulez, le fond du problème, c'est que il y a eu une sorte de dilemme initial. C'est-à-dire que ces gens étaient venus dans une institution qui était en pointillé pour, au fond, contester toute institution, en particulier toute institution universitaire de ce type. Donc il y avait une contradiction dans l'essence même du propos. Or, pour qu'une institution puisse jouer ce rôle décapant, il fallait qu'elle ait un minimum de consistance institutionnelle, précisément. Donc, certains nombres dont j'étais ont pensé qu'il fallait assurer un petit pédoncule administratif, sans aucun lien ombilical avec l'institution nationale et avec le reste du système. On risquait l'isolement complet, c'est-à-dire que les expériences qu'on pouvait faire ne soient répercutées en rien, qu'elles soient complètement coupées du reste. Et c'était un danger que s'il n'y avait pas tout de même cette petite communication, tout ce qui puisse être fait dans cette espèce de clairière obscure ne pèse d'aucun poids. Et c'est pour ça que nous étions un certain nombre à vouloir partager cette volonté de nouveauté, mais à être très soucieux, pour des raisons ontologiques en quelque sorte, de garder le lien, et en particulier d'avoir un statut d'université normale et qu'il soit pas une espèce d'université populaire ou jardin d'enfants pour adultes, en quelque sorte, comme vous voyez beaucoup d'exemples dans un certain nombre de pays. On a tenu à rester lié au système universitaire institutionnel, à être une université de Paris, par Paris 8, et ça n'a pas été simple, parce que c'est là où s'est fait la première cassure. C'était pas tout à fait une cassure, ça a été une espèce de dissociation un peu stratégique, parce que finalement les deux composantes, ces composantes participationnistes comme on dirait et non participationnistes, après avoir échangé tout ce qu'on pouvait imaginer comme Orion, Verbeau et autres, ont finalement été un tout petit peu, sont très vite devenus un peu complices. Simplement, je dois dire que la partie non participationniste qui était majoritaire a été pas toujours mécontente d'avoir, malgré tout, une institution assumée, comme on assume un mal ou une peste ou une gale, par un certain nombre de collègues, dont un président. Parce que le président, c'était la diablerie, alors effectivement, c'était le symbole. Donc, voilà.
Et pourtant, vous n'avez pas pu empêcher les rumeurs. Elles ont été nombreuses, que ce soit l'affaire de l'enseignement de sexologie, que ce soit l'accueil des adolescents drogués, que de rumeurs ont circulé à propos de l'université, du bois de Vincennes et de tout l'environnement.
Oui, alors ça, c'est pas venu tout à fait tout de suite. Hein.
Un article publié par le Nouvel Observateur de la semaine dernière, un article qui rendait compte d'un cours sur le dégoût en amour, les odeurs, leur intensité et leur qualité. Son titre, « Je te tiens, tu me tiens », autant dire tout un programme. La réaction ne s'est pas fait attendre, il n'est pas pensable que des étudiants passent leur temps à se sentir et à se toucher, il n'est pas pensable que de tels cours débouchent sur un diplôme d'État, le secrétaire d'État aux universités le disait hier soir à TF1.
Il doit y exister une façon d'enseigner la sexologie dans le cadre d'un enseignement scientifique et dans le cadre d'un enseignement universitaire. Vous ne me ferez pas croire que des étudiants, si les faits sont exacts, qui sont conduits à se déshabiller et à se sentir, comme le décrivait l'article, pratiquent ou suivent un cours d'université. Ou alors tout cela relève du canular.
Pas d'accord, lui répond le docteur Lapassade, l'un des assistants du docteur Maignan. D'abord parce que ces études permettent à des jeunes de mieux se réaliser dans la vie de tous les jours, de se libérer de tous les tabous et interdits sexuels. Ensuite parce que l'on a raconté beaucoup de choses sur ce cours, et particulièrement sur de prétendus travaux pratiques.
Il n'y a pas de travaux pratiques, il y a expérience corporelle, comme cela se fait dans beaucoup d'universités françaises, sous la forme de l'expression corporelle et d'autres formes de communication dites non-verbales. C'est-à-dire, tout simplement, qu'un étudiant propose qu'on se respire réciproquement et les gens vont sentir les odeurs des cheveux, par exemple, de leurs voisins, etc.
Quel est le but de ce cours ?
Le but de ce cours est de former de futurs éducateurs.
Cette annonce à la radio, non à la télévision. Est-ce que c'est pédagogie ou pornographie? Enfin, il y a eu toute une petite empoignade, un tout petit peu malhonnête tout de même. Bon, a laissé penser que c'était un espèce de lupanar. Or, en fait, le vrai problème des Vinçois, en tant que président, je l'ai assumé, c'était au contraire de faire de bons couples et de faire des enfants et de les mettre à la crèche où ils seraient élevés dans un esprit tout à fait nouveau. Et la crèche m'a coûté beaucoup plus de soucis. Elle a eu aussi ses tumultes. Elle a voulu être autogérée. Mais la crèche et les petits-enfants ont joué un rôle beaucoup plus considérable que les égarements des mœurs. Ça, je dois le dire. Hein. Et ça a été un peu inventé pour le grand public et pas le grand public. Et à partir d'une chose qui était, je veux dire, le docteur Maignan, pour en reparler, était un ami, un collègue de Ménie Grégoire, et dans ses UV, il faisait pas plus, tellement.
Est-ce que le transfert à Saint-Denis a été la mort de Vincennes, ou est-ce qu'il reste une mémoire?
Alors, si vous voulez...
En même temps qu'une reconnaissance institutionnelle.
Oui, alors la reconnaissance institutionnelle, elle avait tout de même cheminé, avant, dans la mesure où j'avais obtenu un tout petit peu, pour contrebattre toute ce système de rumeurs, une première expertise. C'est pour ça que nous avons été en quelque sorte, là encore, nous avons été un tout petit peu précurseurs quand on fera le bilan. Il existe un comité national d'évaluation. Eh bien, j'avais sollicité quelque chose de genre, ça n'existait pas, mais j'avais dit, étant donné l'espèce de côté un peu malsain de ce qui entoure entre universités, où moi j'avais conscience et conviction qu'il se passait beaucoup de choses intéressantes, j'ai demandé une première expertise de ce type-là.
Bon. Mais il y a eu le transfert.
Alors le transfert, ça a été un coup. C'était fait pour, effectivement, étrangler tout ce qui avait été... D'ailleurs, Mme Sonny-Saïti, il faut bien le dire, dans un de nos entretiens, me l'avait pas dissimulé. C'était qu'il fallait surtout pas que ça fasse tache d'huile. Ben alors, ce qui s'est passé, moi, à l'époque, si vous voulez, étant donné que c'était à la limite du bulldozer, c'est là où je suis ressorti de mon trou, j'ai eu le sentiment que cette communauté était traumatisée par cela, risquait de s'effilocher, ce qui se dessinait un petit peu. Et qu'il y avait des choses, il y avait cette mémoire, il y avait ces pratiques, ces expériences à sauver et à poursuivre, peut-être dans un autre cadre, qui pouvait qui pouvaient aussi être pas nécessairement plus pernicieux, dans lesquels il y avait aussi encore des choses à faire. Alors, le transfert à Saint-Denis a posé beaucoup de problèmes. Les locaux étaient mal adaptés. Il y avait le côté excentré, très dur à vivre. Mais un certain nombre de choses ont pu se transplanter relativement et puis se développer dans des conditions nouvelles avec justement des interlocuteurs, une région, un monde du travail, un monde urbain, des tas de choses qui ont finalement intéressé les Vincenois autant qu'ils ont pu, leur peser.
Les 20 ans de l'Université de Vincennes, premier volet, par Michel Chouchan. Document INA de 1968, 1972, 1975, avec les voix de Yves Mourouzi et Pierre Demergue, Jacques Rougeau et Jean Rabault, Jean-Pierre Soisson. Avec des extraits du spectacle de musique contemporaine créé le 12 mars dernier à la cartoucherie de Vincennes par des étudiants et des enseignants de Paris 8. Mixage Alfred Fontaine, réalisation Brigitte Rioux. Cette émission a été diffusée la première fois le 10 avril 1989 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.